Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors je sais qu'en général on parle et tout, et même vous en ligne, vous voyez que ça vient de démarrer, vous êtes encore peut-être avec un café ou en voiture, donc je vais le redire pour chacune et chacun. Bonjour tout le monde. Bonjour Gute Moria, comme on dit en Alsace. Faites-nous connaître si vous êtes heureux d'être là ce matin en applaudissant le Seigneur d'avance, de voir s'il y en a qui sont heureux. Ah, une belle journée nous attend. Bienvenue à l'église de l'Épi, une église protestante, évangélique. Très heureux de vous accueillir pour cette célébration spéciale de baptême. Et nous aimerions saluer chaleureusement les amis des baptisés, la famille des baptisés à l'Épi. Est-ce qu'on peut leur souhaiter une bienvenue dans ce lieu aussi? On est heureux d'être là. Vous qui êtes en ligne et qui êtes en train d'arriver, allez, cette rue des Frères Hébert, n'hésitez pas, on est là. On veut démarrer avec vous ce matin un temps particulier, on veut partager notre vie d'église avant de vivre encore cette temps de célébration dans le chant, dans la prière. On va entendre des parcours de vie. Alors juste un instant, si on pouvait juste se concentrer ensemble sur la vie en semaine de ce qui nous attend ici à Strasbourg. La première annonce importante qu'on voudrait vous partager, c'est qu'à Strasbourg, on est heureux de pouvoir vivre des temps forts au niveau chrétien. Et nous allons accueillir le Festival. Le Festival, c'est un festival évangélique, le Festival évangélique d'Alsace. Et ça se passe du 9-10 juin, c'est-à-dire la semaine prochaine. Deux temps forts. Il y a un temps avec tout un village des associations, un village des solidarités, où on vous présente des actions concrètes faites auprès des gens qui passent peut-être par des saisons compliquées de la vie, qui sont investis au niveau de la cité, au niveau de Strasbourg. Et il y aura une soirée louange d'Anne Lutten et ses amis. Anne Lutten est un artiste chrétien, un louangiste, quelqu'un qui aime par la musique faire connaître le nom de Jésus, et il sera avec ses amis pour un temps en soirée, samedi soir, un temps de célébration, un temps de louange, un temps de chant. Et le lendemain matin, nous aurons un rassemblement de toutes les églises protestantes et évangéliques de Strasbourg, et c'est conduit par le CNEF. Le CNEF, c'est le Conseil National des Évangéliques de France, qui représente 70% des protestants évangéliques en France. Et c'est vraiment un temps précieux où des autorités sont invitées pour l'occasion. Il y a différentes personnes de la ville de Strasbourg invitées, et vous êtes toutes et tous cordialement invités. Donc le festival évangélique d'Alsace, merci d'avoir répondu pour les besoins de bénévolat. Merci à vous. Il y a encore des besoins, si on peut projeter le QR code pour les bénévolats. On a encore besoin de bénévoles pour prendre soin des enfants. Au dernier comptage, PS, combien d'enfants sont attendus pour le festival? Il y a 280 enfants inscrits pour ce festival. On a passé la barre des 1500 participants pour la soirée de louange et pour la célébration inter-église, pour le culte inter-église. On a besoin de bénévoles. Vous pouvez flasher le QR code. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site internet www.epi-du-6-strasbourg.eu ou sur le site du festival directement. L'Epi aime encourager, aime faire connaître l'amour de Dieu ici à Strasbourg, dans la région, mais aussi jusqu'au bout de la terre, au niveau international. Et nous soutenons des missionnaires, des personnes qui vont aider de manière humanitaire, de manière de partager la solidarité au travers du message aussi qu'a Jésus pour les personnes qui sont en recherche. Et on veut simplement vous rappeler pour nous, l'Église, qu'il y a un temps de prière dédié aux missionnaires le jeudi 8 juin. Donc c'est le deuxième jeudi du mois à 19h30 en salle jeunesse. C'est au rez-de-chaussée bas de ce bâtiment. Donc si vous avez à cœur de soutenir les missionnaires, de prier pour eux, vous avez ici un espace où l'Épi peut vraiment prier et soutenir dans la prière nos missionnaires. On a une annonce maintenant à direction des ados, et je vais inviter Thierry, je vais inviter Alexis et Marie à venir nous rejoindre pour une annonce concernant un événement fort dans la région aussi qui s'appelle Teen Street.
Bonjour à tous. Alors voilà, on est devant vous pour vous simplement vous remercier premièrement. Donc l'année dernière, nous sommes partis à plus d'une vingtaine de jeunes à Gérone en Espagne pour assister à un camp international qui s'appelle Teen Street. Et on a pu partir grâce à vos prières, grâce à votre générosité qui a été vraiment conséquente. On veut vraiment vous remercier pour cela. On a pu partir sans encombre. Et aujourd'hui, donc on est là aussi pour annoncer que ça continue pour la nouvelle année. Alors on tient aussi à s'excuser auprès de l'Église On avait annoncé un événement, on voulait faire un retour de témoignage autour d'un repas et ça n'a pas pu se faire. Mais c'est pas grave, on a un stand à l'entrée et on vous a préparé une newsletter qui retrace en fait les vécus des témoignages des ados lors de ce camp.
Alors Teen Street, quand on parle d'ados, on peut se demander qu'est-ce que moi je fais dans ce camp. Merci. Alors simplement, les ados qu'on accueille, ils ont entre 13 et 18 ans. Et à côté de cela, il y a 4000 ados qui viennent, principalement d'Europe. L'année dernière, il y en a eu qui venaient du Congo. Il y a eu habituellement d'autres viennent des États-Unis, de Corée du Sud. Et donc, c'est un camp international. Donc, on a besoin non seulement d'accueillir ces ados, on a aussi besoin de personnes qui les encadrent. Donc, Marie, ma femme et moi, nous faisons par exemple partie de l'équipe de prière. Donc il y a tellement, à peu près une trentaine de services, et on a besoin de bénévoles pour que Teen Street, imaginez-vous 4000 ados pendant une semaine, c'est juste phénoménal. Mais rassurez-vous, quand je reviens de Teen Street, j'ai l'impression d'être ado. Donc les inscriptions ont démarré, elles se termineront à la fin du mois de juin, donc ceux qui sont intéressés, surtout n'hésitez pas à vous inscrire. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que Teen Street cette année aura lieu à Offenbourg. Offenbourg, ce n'est pas le bout du monde. L'année dernière, c'était à 1000 km de Strasbourg. Je peux vous assurer, faire l'aller-retour, ce n'était pas évident. Mais Offenbourg à côté.
C'est 30 minutes, Offenbourg. Et donc, pour terminer, deux choses. Chacun de vous peut venir faire une journée d'immersion à Teen Street, c'est prévu. N'hésitez pas, c'est aussi l'occasion pour vous de voir ce que vivent les jeunes et aussi de se dire, mais c'est quoi Teen Street, d'y rentrer. Et la deuxième chose, les jeunes ont donné leur témoignage et Gabriel et Alexis, ils ont fait cette lettre de témoignage. Donc n'hésitez pas, il y a un stand qui a été fait. Et puis, ce sera pour vous l'occasion aussi de découvrir ce à quoi vous avez participé pendant ce camp. Eh bien, bon culte.
En direction des ados, vous avez connu au mois de mai, est-ce qu'il y a des ados dans la salle ou des jeunes? Alors, qu'est-ce que vous avez vécu au mois de mai? Echo, vous avez aimé Echo? Vous aimerez Teen Street. Merci.
Est-ce qu'on peut encourager les organisateurs? Vraiment, c'est un temps fort qui arrive pour les ados. L'EPI, l'église de l'EPI est pleinement elle-même quand il y a un espace pour les enfants, les ados et les jeunes. Une dernière info importante, bientôt va arriver une célébration spéciale à direction non seulement de vous, les adultes, les familles, mais aussi des ados. Et ça sera vraiment co-animé par les ados. Ils seront partout à l'accueil, partout pour vous accueillir. Donc on vous donnera encore plus d'informations, mais restez bien connectés à cela, une célébration spéciale ados. Est-ce qu'on peut se lever un instant là? Vous êtes assis, on est comme ça un peu. On va vivre ensemble ce qu'on appelle ici la louange, un temps de célébration, un temps où par le chant, nous allons chanter Dieu. Alors peut-être vous allez découvrir une manière de prier, nous aimons prier en chantant ou chanter en priant. Il va y avoir les paroles qui vont être diffusées sur les écrans, donc vous allez pouvoir aussi saisir ce que nous chantons, ce que nous disons à Dieu. En tout cas, ici à l'EPI, nous aimons la louange. Est-ce qu'il y a une église qui aime la louange dans ce lieu ce matin? Est-ce qu'on peut donner encore un tonnerre d'applaudissements à Jésus? Au Seigneur des Seigneurs, et on va célébrer Dieu ensemble. Soyez toutes et tous bénis.
On va taper des mains ensemble.
Bonheur pour fonder ma foi, Jésus, tu es. que je choisis, puissant rédempteur, pour guider mes pas. C'est toi que je choisis, source de bonheur, pour fonder ma foi. Jésus, tu es l'auteur de ma joie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Celui qui donne un souffle.
Celui qui donne un souffle quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
La joie ce matin.
Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie, celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Celui qui donne.
Celui qui donne.
Jésus dans ce lieu ce matin. On va poursuivre avec un chant qui célèbre le nom de Jésus. Ce chant dit « Merveilleux nom ». Et dans tout ce chant, on va énumérer des noms qui nomment Jésus dans la Bible, qui nous parlent de qui il est et de ce qu'il fait, de qui il est et de ce qu'il fait en général. Mais nous le croyons ici dans ce lieu, de qui il est et de ce qu'il peut faire dans ta vie ce matin. C'est pourquoi vous allez entendre parler du mot libérateur, du soleil du matin, ce soleil qui peut se lever même s'il y a les ténèbres, même s'il y a les nuages dans ta vie en ce moment, le soleil peut se lever pour toi. Celui qui est le commencement, ce fils bien-aimé, ce roi serviteur, lui qui a créé les cieux et la terre et qui a décidé d'offrir sa vie, de venir sur terre pour nous sauver chacun d'entre nous. C'est ce nom qu'on veut célébrer ce matin. Merveilleux nom.
Couronné rayonnant de majesté, tout l'univers proclame ta grande. Glorifié, par les anges prosternés, tu es assis la droite du Père. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi aux yeux. Jésus, ton précieux nom est digne dommage. Captivé par l'éclat de ta beauté, nos voix célèbres pour te rendre gloire. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable sillonnant est digne d'hommage, Jésus. Jésus, merveilleux nom, qui est semblable à toi, ô Dieu. Jésus, ton précieux nom, est digne d'hommage.
On va proclamer les noms de Dieu ensemble, ensemble de tout notre cœur. Que vous le croyez, que vous êtes en passe de le croire, on veut proclamer qui est Jésus ce matin dans ce lieu. Consolateur.
Consolateur, divin rocher.
Jésus.
Seigneur, merci parce que tu es digne d'hommage. Merci pour ton merveilleux nom, Seigneur. Merci pour ce que tu fais pour chacun d'entre nous, Seigneur, et pour les personnes qui vont parler après, Seigneur. Je te demande vraiment de les bénir et de les accompagner tout au long de leur vie, Seigneur, avec toi. Amen.
Jésus, tu mis ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour envers sans extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini. Il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Qu'une ombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Qu'un mur ne peut résister, les mensonges tenir, sans fin tu me cherches. Nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Nombre n'est trop sombre, ni mon trop élevé pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.
Est-ce qu'on peut élever l'amour de Dieu, Dieu lui-même? Waouh! Est-ce qu'on peut accueillir les enfants qui sont avec nous aussi ce matin? Waouh! Merci équipe de louanges, merci à vous là pour ce temps où on nous rappelle l'amour de Dieu. Vous pouvez prendre place un instant. On va vivre maintenant ces temps de baptême. Baptême, c'est immergé dans le grec, dans le grec biblique, c'est immergé, plongé dans l'eau. D'où le fait que nous avons ici ce qu'on appelle un baptistère. Et il y a toute une symbolique, il y a tout un message quand Jésus a appelé les personnes qui rencontraient son amour à pouvoir se faire baptiser. Le baptême arrive dans un cheminement spirituel, c'est important de le saisir ce matin. Le baptême n'arrive pas juste comme ça, il y a un cheminement de vie qui prend place et on en arrive à ce moment de baptême. Alors on va le vivre ensemble, vous allez écouter des parcours de vie et on prie vraiment, on espère vraiment que ce sera un temps où dans notre cheminement à nous spirituel, ben que Dieu puisse avoir un impact, un écho, une résonance de sa voix dans notre cœur, dans notre âme, à nous. Bon temps de célébration, baptême.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Alors je m'appelle Noémie, j'ai 25 ans.
Comment tu étais avant de rencontrer Jésus?
Alors avant de rencontrer Jésus, en fait, je suis née dans une famille catholique et du coup j'avais quand même un cœur pour le Seigneur, enfant déjà, mais en fait j'avais l'impression qu'il me manquait quelque chose, peut-être un espace, on m'avait pas nécessairement parlé de la relation au Seigneur, et donc j'avais une vie de prière, j'étais assez pratiquante dans ma religion, mais parfois un peu, j'avais l'impression que le Seigneur était un peu loin de moi, presque parfois en surplomb par rapport à ma vie, et j'avais pas compris qu'il avait un plan pour moi, qu'une relation était possible avec lui, de proximité vraiment, et en fait il y avait toujours du coup ce vide en moi qui persistait.
Et est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as rencontré Jésus?
En année d'études, donc ça se passait pas très bien à ce moment-là. C'était un moment douloureux où je m'étais sentie abandonnée et justement presque comme si on m'avait volé quelque chose, et cette sensation de vide est revenue encore plus forte. Et à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de sortir la tête de l'eau. Et donc du coup, j'ai cherché sur YouTube, je cherchais un peu des témoignages, et je suis tombée sur des capsules vidéo où j'ai vu vraiment le témoignage d'un couple. Et là, la femme m'a particulièrement touchée parce qu'elle parlait de cette relation au Seigneur dont moi, je n'avais pas encore entendu vraiment parler. Elle parlait de ce lien qu'elle avait avec Jésus, et elle a même dit que c'était son fiancé en fait, alors qu'elle témoignait avec son mari, mais voilà, elle a parlé de cette relation profonde qu'elle avait avec Jésus. Et là je me suis dit waouh, en fait c'est ça à quoi je suis appelée moi aussi, et tout d'un coup je me suis dit ça peut changer pour moi, et il y a quelque chose de plus profond, le Seigneur veut se rapprocher de moi, enfin ou il veut que je me rapproche de lui peut-être, et
Qu'est-ce que ça change concrètement pour toi aujourd'hui?
Ça a changé beaucoup de choses, et surtout par rapport à mes croyances passées. Je pense qu'il y avait plein de choses que je croyais qui n'étaient pas forcément alignées sur la parole de Dieu, la Bible. Et par exemple, mon rapport au mérite, j'avais l'impression qu'il fallait que je fasse pour mériter, qu'il fallait que je fasse pour être pardonnée. Et là, Dieu m'a dit, non, en fait... par le sacrifice de Jésus à la croix, tout a déjà été accompli, et il a pris le péché sur lui, donc il a pris les maux du monde sur lui, et maintenant c'est quelque chose qui est gratuit pour toi, et vas-y, bénéficie-en puisque tu peux le faire. Et puis il m'a aussi mis à cœur de trouver une église pour pratiquer, pour apprendre à le connaître encore davantage, pour grandir avec lui. Et c'est là que finalement j'ai cherché, ça a été un peu long, puis j'ai fini par trouver, puis je suis tombée sur l'épi, et voilà. Ça m'a...
Et du coup, pourquoi tu veux te faire baptiser alors?
Et donc du coup, je veux me faire baptiser parce que j'ai compris que j'étais née de nouveau, et que j'avais envie de montrer ça aussi devant la communauté de croyants, et j'avais vraiment envie d'entrer dans l'église du Seigneur.
Noémie, est-ce que tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur?
Oui.
Est-ce que tu choisis et tu décides de marcher avec lui jour après jour?
Oui.
Alors parce que tu as confessé avec ta bouche et cru avec ton cœur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Méline, ça va ?
Ça va, un peu stressée.
Est-ce que tu peux nous dire un événement où Jésus a fait quelque chose dans ta vie pour que tu arrives à ce jour-là du baptême ?
C'était un peu compliqué. J'avais une vie un peu compliquée. J'ai perdu ma maman très jeune et tout. Et du coup, je me sentais pas bien. Et un jour, on m'a parlé de Dieu. Et je me suis réveillée un matin en croyant en lui, alors que je me suis couchée sans Dieu. Et je me suis réveillée avec lui. Voilà, c'est tout.
Très bien, c'est pas...
Aussi, en fait, pendant 2 ans, du coup, j'ai prié pour ma sœur, qui croyait pas du tout en Dieu. Et le jour de l'ascension, elle m'a dit qu'elle y pensait. Et là, j'ai vraiment pleuré et je me suis dit, c'est bon. C'est Dieu, c'est Jésus.
Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur ?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés ?
Oui.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Bonjour, je m'appelle Emma, j'ai 21 ans, je fais des études de comptabilité et je viens de Rouen.
Comment t'étais avant de rencontrer Jésus ?
Avant de rencontrer Jésus, je vivais avec ma mère, l'absence de mon père, et j'étais non-croyante, mis à part que mes grands-parents sont catholiques, mais je n'ai jamais vu personne aller à l'église.
Comment tu as rencontré Jésus ?
J'ai rencontré Jésus grâce à mon copain, qui lui-même est croyant à l'épi, et je suis allée un dimanche avec lui et la louange m'a fait pleurer de joie, bien sûr. Et du coup, je viens tous les dimanches maintenant.
Qu'est-ce qui a changé pour toi et pourquoi tu veux te faire baptiser ?
Pour le baptême, j'ai décidé de me baptiser car j'ouvrais et fermais la page internet « Comment se baptiser » pendant plusieurs mois. Donc je me suis dit « faut passer le pas ». Et qu'est-ce que ça a changé ? Ça a changé la façon de penser, de réagir, de pardonner les gens, de tout.
Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés ?
Oui.
Est-ce que tu t'engages à le suivre et à marcher à ses côtés jour après jour ?
Oui.
Est-ce que tu es prête ?
Oui.
Alors, sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alex, ça va ?
Ça va ?
Oui, ça va.
Est-ce que tu peux nous dire, courtement, hein, pas 2 heures, hein, pourquoi tu en arrives là ? Qu'est-ce que Jésus a fait dans ta vie ?
J'ai eu une période difficile, pas facile, où j'ai perdu mon grand-père et je me posais beaucoup de questions et j'ai ressenti le besoin de revenir à Dieu. Et j'ai prié et lu la Bible et Dieu s'est révélé à moi. Et on est venu à l'épi et c'est ce qui a fait que maintenant je suis là.
Donc tu crois que Jésus est mort sur la croix pour tes péchés ?
Oui.
Tu crois qu'il les a tous pardonnés ?
Oui.
Tu veux le suivre toute ta vie ?
Toute ma vie.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Je m'appelle Violette, j'ai 20 ans, je suis en 13e année d'ostéopathie à Strasbourg. Et je suis issue d'une famille chrétienne à l'origine, j'ai toujours eu un enseignement chrétien. Et en fait, je croyais que j'étais au plus proche de Dieu, je pensais que je pouvais pas être plus proche que ce que j'étais à ce moment-là.
Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus ?
Avant de rencontrer Jésus, je vivais ma vie en pensant que j'étais vraiment dans le droit chemin, que je connaissais Dieu, voilà. Je pensais un petit peu que la foi, c'était quelque chose de caché, c'était quelque chose qu'il fallait avoir dans son cœur, mais pas forcément l'exposer, pas forcément parler à d'autres personnes, dans sa famille. Et du coup, ouais, je vivais un peu ma foi cachée, un petit peu pleine de doutes, voilà. Puis du coup, forcément, avec l'adolescence, je m'éloignais peut-être un petit peu de Dieu. J'étais un petit peu seule dans ma foi, en fait, c'était ça.
Comment tu as rencontré Jésus ?
Alors, j'ai rencontré Jésus quand j'étais dans une très mauvaise passe de ma vie et où j'étais, je fréquentais quelqu'un qui m'emmenait vraiment sur des chemins remplis de violence, remplis d'emprise, de beaucoup de haine. Voilà, c'était des périodes vraiment très compliquées. Je voguais un petit peu entre l'envie de vivre et l'envie que tout s'arrête, clairement. Et ouais, c'était une période où j'étais tellement en emprise totale que j'aurais pas pu m'en extirper toute seule, en fait. Du coup, c'est Jésus qui m'a extirpée de cette situation-là, alors que mon emprise était la plus totale. Cette personne-là s'est volatilisée complètement de ma vie, du jour au lendemain. Et j'ai vraiment senti que c'était Jésus qui m'avait aidé, qui m'avait sorti de cette situation-là et qui me promettait de pouvoir remplir ce trou dans mon cœur que j'avais, ce trou de manque d'amour, vraiment qui pouvait le combler par sa présence et que c'était lui seul qui pouvait le combler.
Qu'est-ce qui a changé pour toi et pourquoi tu veux te faire baptiser ?
Alors aujourd'hui, ben, je suis une personne complètement nouvelle. Je porte un tout autre regard sur la vie, sur moi, sur mes amis. J'ai repris un peu goût à la vie, en fait. Et aujourd'hui, le baptême, c'est vraiment le symbole de ce renouveau, de cette transition, de cette nouvelle vie que Dieu m'a donnée. C'est vraiment un renouveau pour moi où je peux mettre mon ancienne vie de côté et pleinement accepter la nouvelle.
Violette, ça va ?
Oui, je suis super émue.
Ah bon ?
Je sais qu'on ne voit pas, mais...
On a entendu ton témoignage qui est vraiment encourageant. Et avec tout ce que tu as partagé, est-ce que tu crois que Jésus est mort pour tes péchés ? Et qu'il les a tous pardonnés.
Oui, je crois.
Est-ce que tu es prêt à t'engager à le suivre jour après jour ?
Oui, vraiment oui.
Est-ce que tu es prêt à faire de lui ton Seigneur et ton Sauveur ?
Oui, amen.
Alors parce que tu l'as confessé avec ta bouche et tu l'as cru avec ton cœur, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que tu viens de te présenter ?
Je me présente, du coup, je m'appelle Iguès et j'ai 21 ans. Je suis en troisième année d'ostéopathie sur Strasbourg et globalement, moi, je suis issu d'une famille qui était anciennement catholique et qui a été énormément déçue par les religions, par la foi et par les églises.
Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus ?
Ben, avant de rencontrer Jésus, moi, j'avais cultivé une certaine colère, une certaine haine envers les religions, envers la foi notamment de ma fiancée, de mes amis qui sont chrétiens. Et j'ai toujours cherché à leur faire comprendre que leur point de vue était faux et que le mien était le bon et que j'étais sur le bon chemin. Et que eux, ce en quoi ils croyaient, ce en quoi ils basaient une partie de leur vie, était basé sur des créations humaines qui étaient du coup fausses.
Est-ce que tu peux nous dire comment t'as rencontré Jésus ?
Eh bien, c'est en faisant ces recherches, en essayant de prouver à ma fiancée notamment que sa foi était fausse, que je me suis agacé un soir chez mes grands-parents parce que je trouvais rien et tout ce que je trouvais m'emmenait vers l'idée et vers l'affirmation que Jésus existait, que Jésus avait été là et que ce qu'il avait fait, ce qui avait été écrit dans la Bible était vrai. Et à ce moment-là, j'étais tellement désespéré que je me suis dit que la seule chose qui me restait à faire, c'était prier pour la première fois. Et à ce moment-là, je me rappelle que j'ai dit ben, « Dieu, si t'es là, je sais pas comment on doit t'appeler, mais envoie-moi un signe. » Et j'avais la fenêtre qui était fermée et j'ai senti un vent si chaud, agréable, une espèce, comme si quelqu'un venait m'englober, quelqu'un venait me prendre dans ses bras. Et je me rappelle que cette sensation, c'était la sensation la plus agréable que j'ai eue jusque-là. Et que Je me suis retourné, je me rappelle m'être retourné pour voir s'il n'y avait pas quelqu'un de ma famille qui me prenait dans ses bras. Et il n'y avait personne et j'ai senti à ce moment-là que Jésus était venu et que c'était lui et pas un autre Dieu ou quoi que ce soit.
Qu'est-ce qui a changé pour toi et pourquoi tu veux te faire baptiser ?
Ce que ça a changé pour moi, je pense que Jésus m'a apporté la sagesse dont j'avais besoin pour faire face aux épreuves que je traversais à ce moment-là. Et grâce à Jésus, j'ai pu comprendre que j'avais le droit d'être moi-même, que j'avais le droit de m'aimer et de m'accepter en tant que humain que je suis. Et le baptême, pour moi, c'est reconnaître publiquement que Jésus, il a toujours été là pour moi, qu'il a toujours tout fait pour moi. Et bah, c'est reconnaître que moi, je l'aime et que je veux vivre les épreuves avec lui.
Ilyes, tu as cherché à prouver que sa foi n'était à rien, c'est vrai ?
C'est vrai.
Et tu as rencontré Jésus ?
C'est vrai aussi.
Tu crois qu'il est ton sauveur ?
Bien sûr.
Tu crois qu'il est mort pour tes péchés ?
Bien sûr.
Tu t'engages à le suivre ?
Je m'engage à le suivre.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Alexandre, ça va ?
Oui, ça va, un peu stressé.
On peut comprendre, il y a un peu de monde quand même aujourd'hui. Hein. Est-ce que tu peux nous partager une phrase, une expérience, quelque chose qui te pousse aujourd'hui à prendre ton baptême et comment tu as rencontré Jésus ?
Alors j'ai toujours erré sans Jésus, en fait, toute ma vie. Et en fait, depuis que j'ai connu ma future femme, qui croit beaucoup en Dieu et en Jésus. Donc on a commencé à prier ensemble. Et elle m'a fait découvrir l'église, l'EPI. En fait, depuis ce jour-là, je me suis dit, je crois en Jésus et je veux le suivre.
Waouh, ça c'est tellement énorme. Ok, est-ce que tu crois que Jésus est ton Seigneur et Sauveur ?
Oui, c'est mon Sauveur, oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix pour tes péchés ?
Oui.
Et qu'il t'a tout pardonné ?
Oui.
Est-ce que tu t'engages à le suivre jour après jour ?
Jour après jour, jusqu'à l'éternité.
Waouh, ça va être long, mais ça va être bien. Bah alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux te présenter ?
Je suis togolaise.
Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus ?
Avant, j'étais dans une famille mixte. Mon père était musulman, ma mère était chrétienne. Donc, on n'avait pas trop le choix de choisir. Et c'était un peu trop bouleversant de choisir entre christianisme et musulman. Donc, ça a basculé, en fait, ma foi. Et j'étais tombée dans des choses qui ne devraient pas. Et je faisais des choses. J'irais en boîte et tout ça. J'étais une fille un peu plus compliquée, têtue.
Comment tu as rencontré Jésus ?
J'ai rencontré Jésus grâce à un homme qui m'avait parlé de Jésus-Christ. Il m'a parlé du cœur de Jésus-Christ parce qu'il m'avait dit Jésus nous aimait et Jésus est mort sur la croix pour mes péchés. Alors là, je l'ai cru et il m'avait dirigé vers une église de protestants pour rencontrer le pasteur, pour que le pasteur puisse me prendre en charge.
Qu'est-ce qui a changé pour toi et pourquoi tu veux te faire baptiser ?
Du coup, ma vie avec le pasteur, ma vie a changé parce que le pasteur m'a remis sur la voie de Jésus-Christ. Il m'a aidé à comprendre que Jésus est mort pour mes péchés et que Jésus m'aime beaucoup. Donc, j'ai choisi de me baptiser pour être plus proche de Dieu, pour l'amour de Jésus-Christ et partager son amour envers les autres aussi.
Alors, vous avez le privilège de voir son visage, mais elle a été floutée. Elle ne sera pas montrée à la caméra, par respect, parce qu'elle a demandé de ne pas être sur les réseaux sociaux. Voilà pourquoi le floutage. Oda, c'est le jour J. Est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur?
Oui, je le crois.
Est-ce que tu veux le suivre toute ta vie?
Toute ma vie.
Est-ce que tu crois qu'il est mort pour tous tes péchés?
Oui, je le crois.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Attends, ça. Ah, Hélène, ça va?
Ça va, c'est des larmes de joie. Hein.
Comme beaucoup ici, je pense. Hein. Est-ce que tu peux nous partager une expérience, un événement, quelque chose qui a marqué ta vie, qui fait qu'aujourd'hui tu t'engages à suivre Jésus et tu passes à travers ce temps de baptême?
Je ne vais pas parler d'un événement en particulier, je dirais plutôt que souvent à chacune de mes prières, Dieu a répondu. Et au fur et à mesure, il m'a mis à cœur le baptême. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de lui dire oui, tout simplement.
Ok, c'est simple, mais c'est clair. Est-ce que tu crois que Jésus est ton Seigneur et ton Sauveur?
Oui.
Est-ce que tu crois qu'il est mort sur la croix et qu'il a pardonné tous tes péchés?
Je le crois.
Est-ce que tu t'engages à le suivre, à marcher avec lui jour après jour?
Oui.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Est-ce que tu peux te présenter rapidement?
Oui, alors je m'appelle Manuela, j'ai 28 ans et je viens de Strasbourg.
Comment tu vivais avant de rencontrer Jésus?
Alors en fait, étant enfant, ma mère a subi beaucoup de violence. Donc nous aussi, on l'a subissait. Et enfin, pas sur nous-mêmes, hein, mais voilà, à la maison. Et du coup, mon seul refuge, vu que j'ai eu un père qui m'a abandonnée, c'était de prier, en fait, tout simplement, dans ma chambre. Je lui parlais, je me confiais, étant très jeune, avec mes mots d'enfant. Mais je me confiais, je priais énormément. Et quelques années après, ben, mes prières se sont réalisées, on va dire. Et je me suis interposée entre cet homme et ma mère. Et du coup, ça a eu, en fait, ma mère a eu un déclic face à cet acte que j'ai fait, en fait, avec la force de Dieu, bien évidemment. Et du coup, je me suis sentie tellement bien après ça, après qu'elle ait quitté. Je me suis dit, mais en fait, il m'a écouté toutes ces prières dans mon lit où je pleurais, où je lui criais que je voulais qu'il nous aide. Il m'avait clairement entendue. Et c'est là où je me suis dit, en fait, il est là, il m'a toujours écoutée et je vais le suivre, en fait, tout simplement.
Qu'est-ce que ça change pour toi aujourd'hui d'appartenir à Jésus?
Bah, ça change tout. Dès que j'ai un coup dur, dès que ça ne va pas, la première chose que je fais, c'est lui parler, en fait. Et c'est instinctif, c'est tout le temps, toute la journée, je lui parle dans ma tête, tout le temps. C'est naturel, en fait. Je ne me force pas, je prie tout le temps dans ma tête. Ça fait depuis 20 ans maintenant que c'est comme ça.
Est-ce que tu peux me dire, du coup, pourquoi tu veux te faire baptiser?
Bah, en fait, c'est une officialisation de ma relation, on va dire, avec Jésus, parce que je l'ai vécu seule, on va dire, pendant très 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 longtemps, seule dans ma chambre à prier, etc., où je ne pouvais pas forcément partager ma foi, parce que ma mère est croyante, mais elle n'était pas autant que moi. D'ailleurs, elle a rejoint l'EPI de nouveau il y a quelques mois, donc elle revient aussi à l'EPI. Et du coup, c'est vrai que là, c'est une concrétisation où je me dis, en fait, tout le monde va voir que maintenant, je le suis. Et c'est réel, en fait.
Bon, tu m'as dit, c'est des larmes de joie, c'est ça? La persévérance, c'est ce que j'ai retenu de ton témoignage. C'est fort et c'est quelque chose qu'il faut garder. Est-ce que tu es sûre et certaine que Jésus est ton sauveur et ton Seigneur?
J'en suis sûre.
Est-ce que tu crois qu'il est monté sur la croix, Il a pris les coups pour toi, pour effacer tous tes péchés.
Oui.
Alors sur ta confession de foi, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Yes. Est-ce qu'on peut encore applaudir tous les baptisés qui ont pris l'engagement de suivre Jésus? Yes, pour ceux qui ne savent pas trop, c'est quoi le but de l'Église? C'est ça le but de l'Église. Le but de l'Église, c'est de voir des gens rencontrer Jésus, être transformés dans des domaines de leur vie, puis retrouver la joie de vivre, être libérés de certaines dépendances, peu importe le témoignage, mais rencontrer Jésus et découvrir que c'est ça la vraie vie. Je m'appelle Jérôme, je suis un des pasteurs ici à l'équipe pastorale. Bienvenue à ceux peut-être qui viennent pour la première fois accompagner les baptisés. On est vraiment content que vous soyez là. Il y a vraiment du monde, on est presque plein, on est 580 si je me trompe pas. Bienvenue à tous, vraiment content d'être là. Juste parler un petit message basé sur la Bible. Et je commence avec une petite histoire. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme qui est à la retraite. Et je lui ai posé la question, monsieur, c'est quoi la religion pour vous? Comment vous voyez la religion? Et l'homme m'a regardé et puis il m'a dit en rigolant, « Ah, vous savez, à mon âge, la religion, c'est comme l'amour. On y croit, mais on pratique plus. » je trouvais ça intéressant. J'ai rigolé sur le moment. Mais il s'avère que d'après les sondages, cet homme a raison. En 2022, un sondage a été fait disant que 60% des Français disent croire en Dieu. Mais seulement 27% disent mettre en pratique leur croyance et aller à l'église. Intéressant. Mais par contre, je ne sais pas si vous avez remarqué, qu'on soit croyant ou pas, on aime tous pratiquer les jours fériés religieux. Vrai ou pas? Qui est content du mois de mai avec tous les lundis de fériés qu'il y a eu? Yes, ok. Il y a 6 jours fériés qui sont en lien avec le christianisme. Vous pouvez m'aider, en décembre, il y a quoi?
Noël.
Noël. On pratique tous Noël, si je ne me trompe pas. Ensuite, il y a quoi au mois d'avril? Pâques. Au mois de mai, il y a quoi? Ascension, lundi dernier. Ouais, en août, l'Assomption, et en octobre ou en novembre, ça dépend, je ne sais plus exactement, c'est la Toussaint, exactement. Et aujourd'hui, on va parler de la fête qui s'est passée lundi dernier, qui est la Pentecôte. Qu'est-ce que la Pentecôte? Qu'est-ce que ça peut changer dans ma vie? Comment vivre la Pentecôte si je suis croyant, mais même si je ne crois pas? Même si je ne crois pas, comment vivre la Pentecôte? Mais avant ça, qu'est-ce que c'est? Pentecôte, littéralement, ça veut dire 50 jours après Pâques. Okay, c'était une fête juive, c'était une des 3 grandes fêtes juives de l'agriculture. On célébrait la récolte, on célébrait tout ce que la terre nous donnait, le blé, l'orge et tous les produits de la terre qui nous étaient donnés par Dieu. Et les juifs, à l'époque, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient un passage de l'Ancien Testament qui s'appelait Deutéronome, chapitre 26, versets 1 à 14. Ils lisaient et ils offraient les prémices de leur récolte. Juste une manière de dire, Seigneur, tout ce que tu nous donnes, voici une infime partie en retour. Parce que tout ce qu'on a, c'est grâce à toi. La météo, la pluie qui tombe pour faire pousser ce qu'il y a dans nos terres, c'est grâce à toi. Et là, je vais juste faire une petite parenthèse, peut-être que tu es en train de dire, ok, il est bien beau le jeune homme qui est en train de parler, en plus il a des chaussettes oranges qui sont un peu bizarres. Quelqu'un m'a dit que c'était pas les mêmes hauteurs juste avant, est-ce que ça vous dérange? C'est bon? Ok, je vais juste le rééquilibrer. Désolé pour mon silence cimentaire, ma femme me reprendra à la fin de la réunion. Et peut-être que tu dis, ok, c'est super beau ce que tu es en train de raconter, mais je comprends rien. Ok, Deutéronome, récolte, prémisse, t'es bien gentil, mais... Ok, bah, juste pour toi... Juste parce que je suis gentil. Je vais te faire un panorama de la Bible. Okay, toute notre foi est basée sur la Bible. Un livre qui a 2000 ans, qui a été écrit de moins 3000, de moins 1500 ans à moins 2000 ans. À moins 2000 ans, n'importe quoi. Il y a 2000 ans, donc à partir de Jésus-Christ. Mais voici ce que raconte la Bible. Premièrement, Dieu crée l'humanité. Dieu crée, je pense que vous avez déjà tous entendu parler d'Adam et Ève. Dans des séries Netflix, dans des films, même on en parle, l'humanité, le premier homme, première femme, Adam et Ève. Dieu les a créés pour être en relation avec eux. Dieu a créé l'humanité par amour, pour être en relation et pour partager ce lien d'amour qu'il avait déjà avec lui-même, avec ses anges, etc. Et ce qui se passe, c'est qu'il a donné le choix. Il a dit, tu peux me suivre ou pas. Tu peux manger de tous les arbres qu'il y a dans le jardin, mais sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais il a laissé le choix. Tu peux m'obéir ou me désobéir. Mais si tu me désobéis, il y aura des conséquences. Il y aura ce qu'on appelle la mort spirituelle. Et l'homme a décidé de désobéir. Ce qui fait qu'il y a une séparation entre Dieu et les hommes. Mais tout de suite après, ce qui s'est passé, c'est que Dieu a dit, « Ok, j'ai prévu quelque chose, je vais envoyer un sauveur qu'on appellera dans l'Ancien Testament le Messie. Il y a même des séries là-dessus, le Messie, celui qui est choisi par Dieu, le sauveur du monde. Et le Messie va venir rétablir ce qui a été brisé entre Dieu et l'homme, de par la désobéissance de l'homme. Ensuite, pour que le Messie puisse venir, il va choisir un homme qui s'appelle Abraham. Même dans, chez les musulmans, on parle d'Abraham aussi, c'est un personnage historique. Abraham, de qui va sortir la nation d'Israël? Israël qui avait pour but d'être la lumière du monde, de montrer aux autres nations que le seul vrai Dieu, c'est leur Dieu, celui qui aime l'humanité, celui qui a prévu d'envoyer un sauveur pour sauver chaque personne d'entre nous. Et au fur et à mesure, il y a des prophètes, il y a des rois qui vont venir. Et les prophètes, c'était des hommes qui parlaient de la part de Dieu et qui avaient une relation privilégiée avec Dieu. Et ces mêmes prophètes, à travers le temps, vont annoncer un jour nouveau. Quand ce sauveur va venir, quand il va vivre la vie parfaite, quand il va mourir et ressusciter, un jour nouveau viendra, pardon, et chaque personne pourra expérimenter l'amour de Dieu. Pas seulement les juifs, pas seulement les hommes, pas seulement les prêtres, pas seulement les pasteurs de l'époque, chaque personne va pouvoir expérimenter que Dieu est vivant et que Dieu nous aime. Ensuite, on rentre dans le Nouveau Testament, avec l'évangile de Matthieu. Jésus arrive, il vit la vie parfaite, il meurt. Il ressuscite, il vint à la mort et il permet qu'on puisse reconnecter avec Dieu. Et juste avant de quitter l'ascension, comme Raymond Pierre avait prêché il y a 2 semaines, l'ascension justement qui est une fête aussi religieuse, Jésus va dire, restez ici, attendez, je vais vous envoyer le Saint-Esprit, qui est une promesse dans l'Ancien Testament. Et là on arrive à la Pentecôte, on arrive à acte 2, le passage qui nous intéresse. Mais pour bien comprendre ce passage, il faut faire quelque chose qu'on appelle en théologie des intertextualités. Okay, on va prendre un petit cours d'éthologie ensemble. Intertextualité, qu'est-ce que c'est? C'est, on a un verset, et ce verset fait référence à d'autres versets dans le passé ou dans le futur. Il y a des liens, il y a un langage similaire, il y a des choses qui se regroupent. Et là, on va voir des passages dans l'Ancien Testament qui font directement référence à la Pentecôte dans le livre des Actes, au chapitre 2. C'est bon pour vous? Beaucoup d'informations, mais vous inquiétez pas, on va vraiment prendre le temps de voir ça ensemble. Il y a des versets qui vont apparaître, et prêtez bien attention à ce qui est surligné et en gras, pour bien comprendre le passage de Acte 2 qu'on va lire ensemble sur la Pentecôte. Premier passage, Nombre, chapitre 11, versets 26 à 29. Moïse, qui est un des premiers prophètes, lead le peuple d'Israël, il les a sortis d'Égypte d'esclavage, et il est fatigué, parce que le peuple est un petit peu lourd, on va dire. Et il dit, Seigneur, j'en peux plus, viens à mon aide, je ne sais pas comment l'idée. Dieu dit, prends 70 anciens et je vais mettre de ton esprit sur eux, comme ça il y aura plusieurs prophètes, plusieurs leaders. C'est ce qu'il fait, sauf qu'il y en a deux qui ne se sont pas rassemblés autour de la tente, là où il y avait le rendez-vous, et qui ont commencé à prophétiser. Et il y a un leader qui n'est pas content, il dit, non, c'est pas normal. Et voici ce qui se passe. Moïse, mon maître, empêche-les de faire cela. Ils étaient en train de prophétiser, mais ils n'avaient pas respecté ce qu'il fallait faire. Moïse lui répondit, « Seras-tu jaloux pour moi ? Que l'Éternel, au contraire, accorde son esprit à tous les membres de son peuple, pour qu'ils deviennent tous des prophètes. » Tous des prophètes, on retient ça. Prochain passage, Ésaïe, chapitre 6, versets 4 à 7. Ésaïe, c'est un prophète, un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et au moment de son appel, voici ce qui va se passer. Pareil encore, retenez bien ce qui est souligné et en gras. « Les montants des portes du temple se mirent à trembler. » Au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Et voici que de mes yeux, j'ai vu le roi, le seigneur des armées célestes. Alors l'un des séraphins vola vers moi, il tenait à la main une braise, retenez ça, une braise du feu, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit, maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. Pareil, un autre prophète, Ézéchiel, au moment qu'il a une vision de la gloire de Dieu, puis juste avant que Dieu lui donne son appel de prophète. Verset 4, Ézéchiel 1, verset 4, je dis, « Je vis soudain un vent de tempête venant du nord qui poussait devant lui un énorme nuage sillonné d'éclairs. Ce nuage était entouré d'une clarté éblouissante. En son centre, il avait l'éclat d'un métal au milieu du feu. » Beaucoup d'images, mais qui vont faire du sens pour le verset qu'on va voir tout à l'heure. Verset 13, ces êtres vivants avaient l'aspect de braises incandescentes. Ils paraissaient embrasés comme des torches brillantes, toujours en rapport avec le feu. Le feu courait entre ces êtres vivants. Ils avaient l'éclat du feu et des éclairs jaillissaient de ce feu. Verset 27. Je vis que la partie supérieure de son corps, au-dessus de ce qui ressemblait à sa taille, avait l'éclat étincelant de l'airain et l'aspect du feu. Tout autour et la partie inférieure semblait comme baignée de feu. Elle était inondée de clarté. Ézéchiel, Ésaïe, lors de l'appel, le feu, le vent, retenez ces termes-là. Dernier texte, Joël chapitre 3, versets 1 à 3, qui est un autre prophète juste avant Jésus. Après cela, moi, je répondrai, ça c'est Dieu qui parle, je répondrai mon esprit sur tout le monde. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes, vos jeunes gens, par des visions, recevront des révélations, et même sur les serviteurs et sur les servantes. C'est accessible pour tout le monde. Moi, je répondrai à mon esprit en ces jours-là. Je produirai des signes prodigieux dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Résumé de ce qu'on vient de lire. Premièrement, Moïse, qui est le premier prophète. Moïse en a marre et puis dit, moi j'ai un rêve. Mon rêve, c'est que chaque personne du peuple, chaque personne puisse expérimenter le fait de recevoir l'Esprit de Dieu, d'être en relation avec lui et d'avoir un ministère prophétique. Prophète, il n'y a rien de mystérieux là-dedans. C'était de parler de la part de Dieu. Tu reçois une parole et tu le fais, comme les baptisés. Les baptisés ont vécu quelque chose avec Dieu. Ils ont un ministère prophétique qui est de, je raconte ce que Dieu a fait dans ma vie et j'annonce la bonne nouvelle de Jésus. Moïse a ce rêve-là. Ensuite, Ézéchiel, Ésaïe, deux grands prophètes. Lors de leur appel, on voit qu'il y a du feu, du vent, des symboles qui représentent dans le contexte la puissance de Dieu, la présence de Dieu. Et Joël qui vient juste rappeler que le rêve de Moïse est toujours d'actualité. Un jour viendra, quand le Messie viendra, il accomplira ce qu'il a à accomplir, il va mourir à la croix, ressusciter, et il va répandre son esprit sur toute chair, sur les fils, les filles, les vieillards, les adultes, peu importe, sur les femmes, les hommes, et chaque personne pourra expérimenter le fait d'être en relation avec Dieu. Maintenant, lisons le passage qui nous intéresse. Acte 2, versets 1 à 4, le jour de la Pentecôte. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent violent, signe de la présence de Dieu, qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu. Leur apparurent, séparées les unes des autres, et elles se posèrent sur chacun d'eux. Pas juste sur les serviteurs, prophètes, sur les pasteurs, non, sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. À ce moment-là, s'accomplit la prophétie, la promesse qui était dans l'Ancien Testament que chaque personne pourra expérimenter de recevoir le Saint-Esprit, vivre une vie nouvelle, exactement comme les baptisés l'ont témoigné. Il y a une Violette, je pense, qui disait, quand j'ai rencontré Jésus, il y a plusieurs choses qui ont changé dans ma vie. C'est exactement ça, l'Esprit de Dieu qui est accessible, qui représente le fait d'être en relation avec Dieu. Dans la Pentecôte, c'est ça. C'est l'accomplissement de cette promesse que chacun peut expérimenter l'amour de Dieu. Chacun peut expérimenter un renouveau avec Dieu. C'est le ciel qui s'ouvre. Sans forcément devoir faire des œuvres, obéir, c'est le ciel qui s'ouvre avant même qu'on soit digne d'y aller. Et on ne sera jamais digne d'y aller. C'est le ciel qui s'ouvre à nous et c'est l'accès à Dieu qui a été brisé depuis le commencement à cause de la désobéissance de l'homme. Et en plus, là je m'adresse aux baptisés, dès qu'on vit ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, qui est de naître spirituellement, okay, c'est le fait de rencontrer Dieu, de rencontrer Dieu spirituellement, directement, comme le passage nous le dit, il y a un ministère qui vient avec, il y a un service, il y a une mission qui vient avec, qui est un ministère de prophète. Et là, c'est un gros terme. Souvent, nous, quand on entend prophète, on entend les dons de prophétie où tu annonces l'avenir, où on associe ça aux voyants, des fois même dans le monde, tout ça. Là, on ne parle pas de ça. On parle de ceux qui reçoivent de Dieu et qui parlent de la part de Dieu, comme vous avez fait à travers les vidéos, comme les baptisés ont fait dans le baptistère. Donc, il y a cette mission qui vient avec. Dès qu'on devient enfant de Dieu, qu'on est de nouveau avec Dieu, on devient prophète, on devient prophétique dans ce qu'on dit, dans ce qu'on proclame. Dieu a fait ça pour moi. Et je vais le dire à mes amis, à mes collègues, à ma famille. Parce que c'est un message qui est trop important pour que je puisse le garder juste à l'intérieur de moi. C'est un cadeau qui se partage, pas juste pour moi. Et ça, c'est des aspects qui sont tellement faciles à oublier. Là, je m'adresse vraiment à, peut-être aux chrétiens qui sont chrétiens depuis des années. Quand on pense à la Pentecôte, souvent on peut être ébloui un peu par le côté impressionnant, le côté « waouh, les langues de feu, c'est incroyable », le côté où on vient à renouveau, puis c'est des... Puis ça s'est vraiment passé, puis c'est important. Mais voici trois dangers qu'on peut vivre quand on lit la Pentecôte et quand des fois on a besoin juste d'avoir un œil renouvelé, un œil nouveau. Voici les trois dangers qu'on peut vivre quand on lit ça. Le premier, c'est de se dire, je ne suis pas assez spécial pour vivre la Pentecôte. Moi, j'ai déjà lu le livre des Actes et puis je me suis tellement de fois senti mal à l'aise quand je voyais tout ce que les disciples faisaient. Pierre, il va prêcher, il y a 3000 personnes qui vont venir, ils guérissaient les malades, ils vivaient des miracles, et puis toi, tu es là dans ta chambre, puis tu lis la Bible, tu ne comprends pas, tu dis, ben moi, je ne suis pas comme eux, tu sais. Je ne suis pas comme eux. Je ne suis pas assez spécial pour vivre la Pentecôte. Je ne suis pas assez spécial pour raconter à mes amis ce que Dieu a fait pour moi. Moi, quand je me suis converti à 16 ans, il y a une douzaine d'années, donc maintenant vous savez mon âge, je sais que je suis plus jeune. Mais c'est une parenthèse. Et je me souviens quand j'avais 16 ans, je me suis converti, je n'osais pas terminer, je ne savais pas comment dire non. Moi, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas évangéliste, je n'ai pas reçu pour ça. Mais regardez le terme qui revient, c'est super intéressant. Chapitre 1, dans Actes chapitre 1, verset 13-14, juste avant que la Pentecôte arrive. Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Là, le terme est super important. Il y avait la Pierre qui, je rappelle, avait réuni Jésus quelques jours avant. Il y avait Jean, c'était le seul qui était à la croix, mais tous les autres disciples avaient disparu. Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Le mot ordinaire ici est super important. Parce qu'en vrai, on est tous ordinaires. On est tous ordinaires, et puis même peut-être que tu te considères comme un bras cassé. C'est un prérequis pour être utilisé par Dieu. C'est vraiment un prérequis. Si tu ne me crois pas, va voir les évangiles. Et regarde l'équipe que Jésus avait. C'est plus une équipe de Ligue 2 que de Ligue des Champions. Tu verras. Il joue le maintien, mais encore ses limites. Non, tu verras, les disciples Jésus, des fois, ils étaient en colère. Tu dis, mais jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Et à la croix, tout le monde l'a abandonné. Il y a juste Jean qui était là en arrière avec la mère de Jésus, mais sinon, tous les autres l'ont abandonné. Tous les autres. C'est des bras cassés, mais Jésus aime les bras cassés. Et de toute façon, on a tous un côté bras cassé. On a tous besoin d'être restaurés dans un domaine de notre vie. On a tous besoin d'être restaurés dans des blessures qu'on a vécues, dans une paix qu'on cherche, qu'on ne trouve pas. On a tous besoin d'être restaurés sur notre cœur. Et c'est la spécialité de Jésus. Jésus est un chirurgien cardiaque. Il vient transformer notre cœur, le guérir, le soulager, le consoler. C'est la spécialité et c'est ce qu'il aime le plus profondément. Et c'est ce qu'il a fait à travers ces personnes qui sont baptisées. Donc, ordinaire, c'est un prérequis pour être utilisé par Dieu. Deuxième erreur qu'on fait souvent, c'est réduire la Pentecôte juste au parler en langue. Et là, je vais expliquer, parce que parler en langue, c'est un terme des fois qui peut peut-être faire peur ou qui... Ce qui se passe, c'est que la Bible explique quand l'Esprit de Dieu vient sur quelqu'un, quand quelqu'un se convertit, quand quelqu'un rentre en relation avec Dieu, l'Esprit vient et dispose de dons. De dons selon le désir de Dieu. Dons, paroles de connaissance, paroles de sagesse. C'est des dons qui existent, Dieu nous utilise pour encourager d'autres, pour relever d'autres, pour reprendre d'autres des fois quand ils sont sur un chemin qui est dangereux pour eux. Et parmi ces dons, il y a le parler en langue. Parler une langue qu'on ne connaît pas, mais on raconte des merveilles de Dieu. Et c'est ce qui se passe par ici. C'est ce qui se passe dans la Pentecôte. Mais le danger, c'est d'être focus juste sur le miracle de « Waouh, c'est fou, c'est mystérieux, c'est incroyable de parler en langue. » Le focus ici n'est pas sur le don, mais sur le but du don. Quand Dieu fait des miracles, quand Dieu fait des signes, ce n'est pas juste pour faire des miracles. Il y a toujours un but derrière d'aller rejoindre des gens. Toujours un but derrière de restaurer quelqu'un. Toujours un but derrière d'aller récupérer quelqu'un qui est au fond d'un trou et de lui révéler son amour pour lui. Toujours un but derrière. Faire des miracles pour faire des miracles, ça n'intéresse pas Dieu. Faire des miracles pour amener des gens à lui, ça l'intéresse. Parce qu'il veut sauver des gens. Et regardez, dans Actes 2, versets 5 à 12, juste après, ça explique justement pourquoi il y a ce don des langues qui est assez mystérieux. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, venus de toutes les nations, qui sont sous le ciel. À ce bruit, ils accoururent en foule et ils furent stupéfaits parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Un miracle incroyable. Ils étaient tous remplis d'étonnement et d'admiration et se disaient les uns aux autres, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?» Petite parenthèse, galiléens, c'était le nord d'Israël et c'est des gens qui n'avaient pas beaucoup d'éducation. Et ils n'apprenaient pas à parler d'autres langues. Donc c'est encore plus un miracle ici. C'est des gens qui n'ont pas appris à parler d'autres langues, mais pourtant Dieu permet qu'il se passe ça. Comment se fait-il donc que nous les entendions chacun dans notre propre langue, notre langue maternelle? Parthès, Médès, Élamite, habitants de la Mésopotamie, de la Judée, de la Cappadoce, du Pont, de l'Asie, de la Phrygie, de la Pamphylie, de l'Égypte, du territoire de la Libye voisine, de Cyrène, et résidents venus d'Europe, juifs de naissance ou par conversion, crétois, arabes et alsaciens. C'est pas marqué, mais c'est dans le texte original. Nous les entendons parler dans notre propre langue. Moi, je pense qu'on peut parler alsacien dans un don que l'Esprit nous donne. Ce serait incroyable. Dans notre propre langue, des merveilles de Dieu, tous remplis d'étonnement. Et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Le focus n'est pas sur le miracle, sur le don des langues. Le focus est sur que la promesse a été faite avant que chaque nation pourra avoir accès à l'évangile, à cette bonne nouvelle. Et là, il y a des gens de partout de la terre. C'était une fête tellement incroyable qu'il y a des gens du monde entier qui venaient pour célébrer Dieu. Et là, l'évangile est accessible dans toutes les langues. On vit ici un petit peu ça à l'Épi. Il y a des traducteurs en arménien, des fois en anglais. Puis la Bible, je crois, est le livre le plus traduit au monde. C'est le livre le plus vendu à chaque année et le livre le plus traduit au monde. Dieu se révèle dans chaque langue. Il n'y a pas une langue qui est meilleure qu'une autre, une tribu qui est meilleure qu'une autre, une nation. Dieu se révèle contextuellement pour que chaque être humain puisse comprendre dans sa langue maternelle. Et c'est ce qui se passe ici. Et ça fait directement écho à la troisième erreur qu'on peut faire aussi. Croire que la Pentecôte est juste une bénédiction personnelle. Je pense que vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui ont expérimenté l'amour de Dieu, la présence de Dieu, que le Saint-Esprit vient te transformer, et puis c'est juste incroyable. Moi, j'étais addict à la pornographie, je mentais beaucoup aussi, puis Saint-Esprit est venu juste guérir, me délivrer, puis j'ai vécu plusieurs guérisons chez moi, dans ma vie, puis c'est le cas pour plusieurs d'entre vous. Est-ce qu'il y en a qui confirment ça? Dans votre vie, vous avez vécu un renouveau avec Dieu, puis Dieu vous a guéri, Dieu vous a libéré. Yes, il y en a trois. Non, il y en a plus. Ah, ok, c'est bon. Ok, je suis pas tout seul. Dieu a agi et le Saint-Esprit est une bénédiction pour nous. Et d'ailleurs, tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est à travers le Saint-Esprit. Saint-Esprit habite en nous. Même quand on lit la parole et qu'on comprend la parole qu'on a impactée, c'est le Saint-Esprit qui rend vivante la parole de Dieu. Il travaille toujours en synergie avec le Saint-Esprit. Mais il y a un danger quand on est juste focus là-dessus. Et quand on dit juste, Seigneur, je veux vivre la Pentecôte, je veux vivre un renouveau avec toi dans ta présence pour me faire du bien. Il n'y a pas de mal à ça. Mais quand c'est que ça, il peut y avoir un danger. Et les disciples avaient un petit peu cette attitude-là. Dans Acte 1, juste avant que la Pentecôte se passe et que le Saint-Esprit soit déversé et que chaque personne puisse expérimenter l'amour de Dieu. Voici ce qui va se passer. Jésus, juste avant de partir, va dire, le Saint-Esprit arrive, attendez-le, je vais vous l'envoyer, ça va être fou. Et la réaction des disciples est la suivante. Acte 1, verset 6 à 8. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandèrent, Seigneur, est-ce que c'est à ce moment-là que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, voici le focus. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. La Pentecôte, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour moi, c'est pour ceux qui croient pas. La Pentecôte, c'est pas juste pour me faire du bien, c'est pas juste pour être renouvelé, ça fait partie de ça. Mais la Pentecôte, c'est un cadeau que tu partages. Tu reçois une bénédiction et tu vas la partager à d'autres, comme les témoignages. C'est pas juste pour toi, c'est pas juste pour moi. C'est pour chaque personne qui connaît pas Dieu. C'est pour chaque personne qui est en rébellion contre Dieu. Parce qu'en fait, on a tous été en rébellion contre Dieu à un moment donné. Juste avant de rencontrer Dieu. Je vais appeler les musiciens juste à revenir. Voici ce que je crois profondément. Si tu veux vivre la Pentecôte et ta prière, c'est « Seigneur, viens juste me remplir, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de vivre un renouveau. » Dieu va répondre à la prière, puis t'accorder un renouveau. Mais si tu veux vivre la Pentecôte, et ton désir profond, c'est « Seigneur, je veux vivre la Pentecôte pour être une bénédiction pour d'autres », je pense que tu vas vivre le plein potentiel de ce qu'est réellement la Pentecôte. Ma fille Blanche, de 3 ans, elle l'a compris grâce au sucette. Ma fille, tous les dimanches matin, quand on la réveille, elle nous dit « On est quel jour ?»« Dimanche, ouais, je vais avoir des sucettes !» Parce qu'il y a des fournisseuses de sucettes ici à l'EPI qui s'appellent Nathalie et Vito. Et fournisseuse officielle, c'est pas du travail au noir, hein, elle donne gratuitement, vous inquiétez pas. Et à chaque dimanche, elle vient à l'église pour la sucette. La Pentecôte de ma fille, c'est des sucettes qui tombent du ciel, qui sont déversées. Waouh, Coca-Cola, fraises, mandarines, incroyable. Et elle a remarqué quelque chose. Elle a remarqué que quand elle va voir Nathalie ou Vito, puis qu'elle demande une sucette, elle a sa sucette. Mais elle a remarqué, si elle va voir Nathalie ou Vito, puis qu'elle dit, donne-moi des sucettes, je vais en donner aux autres. Elle a beaucoup plus de sucettes. Elle a remarqué ça. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'elle reçoit 4-5 sucettes, elle en donne, et on rentre à la maison, et puis elle en a 2 dans sa main. Et je pense vraiment que c'est la même chose avec Dieu des fois. Seigneur, remplis-moi pour être une bénédiction pour d'autres. Je crois vraiment qu'au plus tu donnes, au plus tu reçois. Puis je ne suis pas en train de parler de prospérité. Je parle d'un cœur qui veut se déverser chez les autres. Je parle d'un cœur qui veut absolument que les autres, son entourage, ses voisins, sa famille, puissent rencontrer Jésus. Et moi, je veux partager. Mais j'ai besoin que l'Esprit me renouvelle. J'ai besoin que l'Esprit me donne l'amour nécessaire. J'ai besoin que l'Esprit m'aide à pardonner. Parce que des fois, c'est dur. Des fois, c'est dur. Quand je me suis converti, mon frère qui est toujours en cheminement avec Dieu, il n'était pas d'accord avec ça. Je me suis converti à 16 ans, il a 4 ans de plus que moi. Et à chaque jour, on était en débat, puis il essayait de me décourager. Chaque jour. Et puis il me disait des termes, c'était quand même assez insultant. Et en fait, 4 ans après, il m'appelle, puis on discute d'une situation familiale. Et puis il me dit, Jérôme, juste en parenthèse, je voulais te demander pardon. Je lui dis, pardon, pourquoi il y a 4-5 ans, quand tu t'es tourné vers Dieu, en fait, j'avais peur que tu te fasses avoir. Et il a dit, puis avec le temps, j'ai vu qu'en fait, ta vie, t'étais transformée, t'avais des bonnes valeurs, puis t'étais heureux, t'étais joyeux. Et je me suis rendu compte quoi, en fait, c'était le meilleur choix que t'as pu faire. De t'engager avec Jésus. Je trouvais ça beau. Et c'est exactement, je pense, que les baptisés aimeraient dire à la famille aussi. C'est un choix qui est pas, qu'on ne peut pas comprendre sur le moment quand on est de l'extérieur, mais en fait, c'est le meilleur choix que tu peux faire dans ta vie. Suivre Jésus, puis le laisser venir te guérir. Vivre des temps avec lui, puis découvrir qu'il veut t'utiliser pour pouvoir annoncer l'évangile. Dire ce que Dieu a fait dans ta vie. La plus belle vie que tu pourrais vivre. Pierre avait cet état d'esprit. Juste après la Pentecôte, Pierre qui avait renié Jésus 3 fois. C'était le disciple qui était le plus courageux, le plus même peut-être un petit peu orgueilleux. Puis dit, moi Seigneur, les autres vont t'abandonner, mais moi je vais te suivre. Il a renié Jésus quand il a vu qu'il l'emmenait à la croix, il a eu peur ou plusieurs choses qui sont passées dans sa vie certainement. Et à la Pentecôte, il va prendre la parole et il va prêcher. Il va dire, voici ce qui se passe. Il y a des promesses qui ont été faites, le Saint-Esprit qui allait déverser. Et en fait, c'est pour toi. Et Dieu peut faire quelque chose dans ta vie. Et il va citer un texte. Prophète Joël qu'on a lu. Juste avant la prophétie du prophète Joël, mais il y a un verset qui va s'afficher, qui acte 2, verset 21, puis voici ce qu'il va dire. La Pentecôte, elle se résume à ça. Ça rend possible que toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. C'est aussi simple que ça. Alors peut-être que tu es là, t'es accompagné, un baptisé, puis tu dis, mais qu'est-ce que je fais là? Mais je pense vraiment que c'est pas un hasard que tu sois là, premièrement. Et même si tu ne t'intéresses pas à Dieu, je pense que Dieu s'intéresse à toi. Je pense que Dieu veut te parler, je pense que Dieu veut te dire qu'il t'aime, que ce qu'il a fait il y a 2000 ans, en fait, ça correspond à ton besoin aujourd'hui. Et on va juste fermer les yeux, puis je ne vais pas faire d'appel à ma vie ou autre, mais je t'invite juste à faire une prière toute simple. Moi, il y a 12 ans, quand je me suis converti, j'ai juste dit, Seigneur, je suis perdu dans ma vie. Viens intervenir. Et il est intervenu. Et je crois que la prière la plus simple et la plus sincère, c'est la prière la plus efficace. Prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est être sincère avec Dieu, puis peu importe ce qu'on lui dit, il écoute et il veut répondre. Alors je vous invite juste, fermez les yeux, Seigneur. Le gars en avant, il parle de toi, il dit que tu m'aimes, il dit que t'es une solution pour moi. Ben, viens le prouver. Viens le prouver. Ou peut-être que tu es dans une démarche où tu commences à croire, mais tu ne sais pas trop. Invite Jésus dans ta vie. Spirituellement, invite-le, viens Seigneur, viens toucher mon cœur, viens changer ma vie, si vraiment tu existes, et si tout ce que j'ai entendu c'est vrai, viens me le prouver, je veux m'engager avec toi. J'ai entendu mon collègue, mon ami, ma fille, ma sœur qui s'est engagée à travers les eaux du baptême, je veux vivre la même chose. Juste prier pour vous. Seigneur, merci pour ce que tu as fait il y a 2000 ans à la croix, qui résonne encore aujourd'hui, qui change des vies, qui transforme Seigneur. Bah, tu as changé ma vie il y a 12 ans, puis c'est le cas de centaines de personnes ici aussi. Je te prie, peut-être, quelqu'un qui est en cheminement, qui est en réflexion, je te prie juste de venir, Saint-Esprit, expliquer que tu les aimes. Venir parler à leur cœur, d'une voix douce, d'une voix qui convainc que tu es la meilleure solution pour eux, que la paix qu'ils recherchent, en fait, c'est toi, tu es le prince de la paix, comme on l'a chanté. Que chaque être humain a été créé pour être en relation avec toi, parce que c'est toi le créateur. Alors, je te prie de toucher, je te prie de venir, Seigneur, vraiment parler au cœur. Alors qu'on va prendre ce chant qui parle de ton amour extravagant. Viens nous parler, et puis je te prie vraiment d'attirer à toi, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.
Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi.
Je me sentais vain.
Je me sentais vain. Tu m'as Oui, tu es si tendre. Pour que tu me cherches, qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches, qu'une ombre naître sans, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches, qu'un mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Nombre d'être sans, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Nombre d'être sans, ni mon trop élevé, pour que tu me cherches. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir. Sans fin tu me cherches. Oh l'amour en versant extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré.
Quel moment, on reste debout. On va vivre un temps qu'on appelle ici à l'épi un temps de focus. La Bible est un livre important pour nous. Il peut être compliqué, complexe à plusieurs égards, mais c'est une parole qui est vivante et qui sait parler au cœur. Et il était important pour nous aussi de pouvoir continuer de bénir toute personne qui se sont fait baptiser en leur offrant le livre qui sait parler à l'âme. Le livre dans lequel il nous est parlé de l'homme qui a transformé, bouleversé le monde, Jésus-Christ. Et nous voudrions vraiment non seulement leur offrir ce livre, mais prendre un temps de prière en église pour eux. Chacune et chacun d'entre nous qui croyons, qui avons une relation personnelle avec Dieu, nous l'avons dit au début, nous le redirons aujourd'hui, nous le redirons demain, c'est un cheminement spirituel. Les combats de hier ne sont peut-être pas les combats d'aujourd'hui. Mais à chaque jour suffit sa peine, dira la Bible. Parce que Jésus, il a promis, cher baptisé, qu'il sera avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Est-ce que je peux entendre un grand amen de l'Église ? La promesse de Jésus, il sera avec vous tous les jours. Et Jésus l'avait anticipé. S'il a dit qu'il sera avec vous tous les jours, c'est parce qu'il sait de quoi il fait une journée parfois. C'est pourquoi en Église, on voudrait prier pour eux. Je vais inviter des personnes qui ont participé à ce parcours baptême. Vous savez qu'il y a un parcours au baptême où on a des temps d'échange autour de la Bible, on encourage, on prie. Alors je vais demander à toutes les personnes là de pouvoir leur offrir maintenant cette Bible et on va prier pour eux aussi. Église, est-ce que, alors qu'il va y avoir ce temps de prière, est-ce que nous pouvons aussi nous associer, prier pour eux, demander au Seigneur maintenant de les bénir, de les remplir de l'Esprit, de les remplir à renouveler. Est-ce que l'Église, on peut prier maintenant pour eux ensemble ? Seigneur, nous élevons nos voix, nous élevons nos cœurs. La Bible dit ceci, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Alors nous te prions qu'il y ait comme une Pentecôte encore ce matin et que l'Esprit de Dieu puisse remplir leur vie. Nous te prions que tu puisses continuer ton œuvre en eux, qu'ils soient des artisans de paix, qu'ils soient des réconciliateurs, qu'ils puissent être des facilitateurs pour découvrir l'amour de Dieu, le message de Dieu, les intentions de Dieu. Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Dieu désire que tous les hommes parviennent à la connaissance de son amour, à la connaissance de la vérité. Alors nous prions maintenant qu'il y ait une Pentecôte qui se manifeste. Nous prions maintenant que l'Esprit de Dieu continue son œuvre. Nous prions pour eux, nous prions pour leur connaissance, leurs proches. Nous prions pour leur cheminement spirituel. Nous te prions pour leur vie d'église aussi, leur relation avec les uns et les autres. Nous te prions vraiment, Seigneur, que tu puisses être élevé, que tu puisses vraiment, Seigneur, les renouveler. Que leur vie, Seigneur, t'honore. Que leur vie, de plus en plus, à chaque jour, puisse ressembler à l'amour de Jésus. Oui, nous les entourons de nos prières. Nous te prions vraiment pour tous les membres aussi de leur famille, leurs proches. Nous les bénissons dans le nom de Jésus, le seul nom qui nous ait été donné, par lequel nous puissions être sauvés. Le seul médiateur, dit la Bible, entre nous et Dieu, Jésus-Christ. Alors merci Seigneur, à toi toute la gloire. Si l'Église est dans la joie de les accueillir de manière concrète, souhaitez-leur une bienvenue. Allez, on peut faire mieux, Église de l'Épi. La joie est dans le ciel, la joie est sur la terre aujourd'hui, à Strasbourg, à la Méno. Retenez bien cette parole, hein. Jésus a dit, il est avec vous tous les jours, jusqu'à la fin. Quelle promesse du roi des rois. Jésus est l'auteur de notre joie. Est-ce que c'est pas un bon moment de le rechanter, de le proclamer? Partez pas trop vite. Encouragez-vous les uns les autres, saluez-vous les uns les autres. On arrive à la fin de cette célébration, mais la communion, la relation continue. On voudrait juste remercier l'Église pour la prière. On voudrait remercier chacune et chacun d'entre vous de faire vivre l'Église à chaque semaine. C'est vraiment, vraiment une grâce de pouvoir vivre l'Église avec vous. Soyez toutes et tous richement bénis.
celui.
Celui qui de mes larmes fait des fleuves de vie. Celui qui dans l'épreuve me fait briller pour lui. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Celui qui donne.
Celui qui donne un sou quand le mien s'affaiblit. Celui qui est fidèle, qui jamais ne m'oublie. Jésus, tu es l'auteur de ma joie.
Voilà, bonne semaine à chacun, chacune. N'hésitez pas, si vous avez envie d'en savoir plus sur les baptisés, allez les voir, allez connecter avec eux. Ils veulent vous partager des choses aussi. Bon dimanche à chacun, qu'on puisse garder ce qu'on a reçu aussi ce matin, qu'on puisse méditer tout ça. Soyez bénis et à dimanche prochain.